Bonjour à toutes et à tous, chers amis, auditrices et auditeurs. Bienvenue dans cette toute nouvelle émission de rentrée dédiée à l'art et à ses productions. Peinture, sculpture, gravure, dessin, tout y passera, c'est Bande à part. Comme il s'agit de notre première émission, il est bon de préciser que Bande à part est une émission ouverte à tous. Nul besoin d'être expert ou érudit pour s'intéresser à des productions artistiques. C'est ce que cette émission entend démontrer. Certes, c'est fort de ma formation en histoire de l'art que je vais vous guider. Mais Bande à part vous invitera à une découverte, voire un voyage. À chaque émission, nous survolerons une œuvre. Chaque fois, nous la présenterons dans son contexte. Puis, nous rentrerons dans l'œuvre par une narration. Nous nous attacherons ensuite à en décrire la composition, avant d'en aborder les diverses interprétations et points de détail les plus saillants. Voici, pour cette courte présentation qui s'imposait, passons à notre œuvre du jour. Puisqu'il y a un début à tout, aujourd'hui, nous nous risquerons à aborder une œuvre en rapport avec la Genèse. Nous allons parcourir ensemble une œuvre magistrale, aussi foisonnante qu'extravagante, le Jardin des délices du peintre flamand Jérôme Bosch. D'après les historiens de l'art, cette œuvre fut réalisée au tournant de la fin du XVe et le début du XVIe. On la date entre 1490 et 1504. Le titre « Jardin des délices » a été unanimement choisi par la communauté d'histoire de l'art pour désigner cette œuvre en trois panneaux, qui représentent de gauche à droite une scène de création du monde, le jardin lui-même, puis l'enfer. C'est sur le premier panneau de cet ensemble, visible au musée madrilène du Prado, que nous allons nous pencher. Mais avant d'en aborder la description, je vous invite à faire confiance à votre imaginaire, puisque nous allons y entrer au travers d'une courte narration. Dans Bande à part, on donne à entendre ce que vous pourriez voir. Au loin, la grisaille, bleutée comme dans une perspective atmosphérique. Des montagnes s'en détachent, ainsi que quelques vols d'oiseaux. Sont-ils exotiques ? Seul Maître Bosch l'a su. Combinaison de rose, de vert prairie et de bleu du ciel. L'image enchanteresse apaise l'œil. On distingue presque au loin des cris, ceux de la vie sauvage. Ce jardin d'Éden est un paradis, étrange et peuplé. Tout y foisonne. Des ramures d'arbres exotiques, des frondaisons de bosquets, des sources jaillissantes aux fontaines, des mares fertiles et porteuses de vie. Partout, des bêtes sauvages, réelles ou chimériques, vaquent dans cette immensité contenue. Le félin, sauvage, chasse. Le paon, parade et fait la roue. Quelques canards barbotent. La licorne, le chameau s'abreuvent paisiblement et sans crainte. Éléphants et girafes semblent statiques. Ils regardent, au loin, vers un au-delà du tableau. Minéral, végétal et aquatique, la création se déploie sous nos yeux, lesquels, ne sachant plus quel détail embrasser. Épisode majeur est passé sous ellipse dans la Genèse, on assiste à une timide épousaille. Adam semble s'éveiller d'une certaine torpeur. Il est surpris. Près de lui, Dieu, drapé de rose. Le maître, qui a les traits de Jésus, prêtre ultime, tient de sa main gauche notre petite Ève, qui comme Adam apparaît nue. Le dos, recouvert d'un épais rideau de cheveux blonds, elle n'est pas honteuse de sa nudité. Ingénue, juvénile et imberbe, elle baisse cependant le regard, n'osant envisager ni Dieu, ni l'époux que Dieu lui présente. Étrangement, le maître regarde fixement le spectateur et non ses créatures. Son regard fixe et comme en éveil semble préfigurer un basculement imminent. Nous sommes au commencement et Dieu est sur ses gardes. From a little shell at the bottom of the sea. With the earth and the moon and the sun around me. There is love, there is love, there is love. It's a buzz, it's a buzz, it's a buzz. It's the buzz, it's the buzz. I wish I was. Et vous venez d'écouter Framuchel de Lisa Germano. Maintenant, nous allons passer à la description. Une description un peu brute, un peu sèche. Nous allons parler du premier plan, du second et de l'arrière-plan. Au premier plan, nous assistons à une scène historiée que l'on pourrait qualifier d'épousaille. Sur un parterre d'herbe grasse, l'artiste nous donne à voir trois personnages dont les lignes de tête permettent de tracer un triangle. Le sommet y est incarné par Dieu, qui a pris les traits du Christ. On le reconnaît à son regard bleu et sa chevelure blonde est bouclée. À sa gauche, et donc à droite de notre regard, Ève se tient agenouillée en même temps qu'elle confie sa main au Seigneur. Celui-ci la présente. Elle est nue, avec ses cheveux pour seule parure. Peau de lait et regard humble, elle n'ose lever les yeux. Face à elle, et donc à la droite du Christ, Adam, qui est encore injuste, se tient assis les jambes étendues, comme s'il s'éveillait d'un long repos. Son expression révèle la surprise, voire la stupeur. Il est à la fois fasciné par le Créateur et par la créature que ce dernier lui présente. Instant figé, la scène est simple. En dehors de nous, il n'est évidemment ni témoin, ni convive. Seule la bénédiction du Seigneur compte, Seigneur dont la main est exactement sur la ligne centrale du tableau. Ce quasi-dénuement vient alors mettre en valeur la richesse détaillée du deuxième plan. Le deuxième plan est séparé de la scène de mariage par une petite forêt, comme pour dire que les hommes ont dans la nature une place à part. Au-dessus de cette forêt s'aplanit une grande étendue d'eau en forme de baie, sans doute un lac. En son milieu sculptural et fantaisiste, une fontaine de couleur rose aux arabesques et formes organiques trône. Elle est le refuge de quelques silhouettes d'oiseaux graciles et d'une chouette nichée dans sa cavité centrale. À sa droite, sur un roc, ce qui peut être l'arbre de la connaissance. Il porte des fruits, mais surtout, un serpent s'enlace sur son tronc. Alentour, c'est principalement le règne des grands animaux. Licornes, éléphants, girafes, chameaux, phacochères. Ils paissent ou s'abreuvent au milieu de vallons dont la végétation clairsemée a été disposée en arbres isolés ça et là par le peintre. Cette raréfaction du végétal permet de faire le lien en douceur avec l'arrière-plan qui, lui, est dominé par le minéral et la couleur bleu de gris. Ce troisième plan présente deux ensembles. À gauche, une caverne, des entrailles de laquelle s'envole ce qui pourrait être une colonie d'oiseaux. Leur vol forme une ligne courbe ascendante qui guide le regard vers le ciel. À droite, un ensemble de montagnes dont le bleu pourrait les faire assimiler à des glaciers. Elles sont triangulaires et s'étirent en pointe vers le ciel. Il y a quelques arbres à flanc de rochers, mais hormis les oiseaux, il n'est pas âme qui vive dans ce désert de pierres bleutées. Littéralement, l'œuvre est d'un dense fourmillement, à un tel point que les interprétations sont nombreuses, parfois antagonistes et toujours variées. La complexité des détails, des motifs et des symboles qui occupent le panneau, ainsi que les incertitudes liées aux identités du commanditaire et du destinataire de l'œuvre, conduisent à la rendre énigmatique à qui la contemple. Ce qui domine dans les interprétations, c'est cette idée que nous assistons à la fois à la création d'Adam et Ève et à la fois à leur union. Toutes les interprétations convergent à souligner la grande charge symbolique du panneau, mettant en garde toutefois à propos d'une attitude de déchiffrement systématique et à marche forcée. Il faut en effet garder à l'esprit que les motifs utilisés par le peintre n'étaient sûrement pas hermétiques à ses contemporains, bien au contraire. Il faut rappeler qu'il s'agit ici d'une pièce monumentale, le but étant de donner beaucoup à voir aux spectateurs. Le panneau qui nous occupe mesure d'ailleurs 2,20 m de haut et 97 cm de large. Sans transition, je vous renvoie à quelques noms de l'histoire de l'art au cas où vous souhaiteriez vous documenter davantage sur les interprétations globales de l'œuvre, c'est-à-dire celles qui mettent en lien les trois panneaux. La première référence, c'est Ernst Gombrich, qui écrivit fin des années 60 et pour qui les trois panneaux pris ensemble représentent le passé, le présent et le futur de l'humanité. Vous pouvez également vous tourner vers une étude de l'historien français Jean Wirth, lequel souligne la dimension utopique du triptyque. Bien sûr, en comparaison des deux autres panneaux, à savoir le jardin, panneau central, et l'enfer, panneau de droite, ce panneau d'Adam et Ève au Jardin d'Éden est assez explicite, lisible et sans équivoque. Nous en retiendrons qu'il s'agit d'une Genèse condensée et qu'elle peut être lue à l'éclairage de la Bible elle-même. Cette façon de condenser les épisodes de la Bible à cette époque n'était pas rare, le but étant de plaire et d'éduquer à la fois. Soucieux de leur éducation morale et de celle surtout de leur descendance, les princes étaient souvent à l'origine des commandes de pareilles œuvres édifiantes. Et pour cela, la forme du triptyque, magistrale et monumentale, était très prisée. Afin de poursuivre sur notre commentaire, je vous invite maintenant à examiner quelques points de détail et singularité de l'œuvre. Dans un premier temps, j'aimerais attirer votre attention sur les références exotiques du tableau. Rappelons que nous sommes au début des années 1500. On retient souvent comme fait marquant à cette époque le voyage de Christophe Colomb. Cependant, la découverte de ce qu'il croyait être les Indes n'est que le début d'une longue course à la terre inconnue, la terra incognita. Au même titre que l'on voyage, la littérature dite de voyage relate les découvertes qui s'accélèrent et rapidement, des planches de faune et de fleurs exotiques circulent dans toute l'Europe. Ainsi, il est amusant de noter les références exotiques dans le tableau de Bosch, mais ça n'est pas surprenant ni exceptionnel pour l'époque. Nous pouvons relever la présence d'un chameau, d'un éléphant, d'une girafe au second plan, mais au premier plan, à gauche de nos trois personnages, on notera la présence d'un arbre au tronc caractéristique que les recherches ont identifié comme étant un dragonnier des Canaries. Je vous laisse aller voir sur Internet à quoi peut ressembler cet arbre. Certains y ont vu une représentation exotique de l'arbre de vie, mais on peut y voir aussi une variante de l'arbre de Jessé. Cet arbre, dit de Jessé, si fréquent dans l'iconographie chrétienne médiévale et qui représente la généalogie du Christ, couramment, l'arbre de Jessé représente des figures humaines dans ses ramures, là elles n'apparaissent pas. Mais cette sorte de liane feuillue qui monte le long du tronc, peint par Jérôme Bosch, n'est pas sans pouvoir rappeler la tradition représentative de l'arbre de Jessé. Je vous laisse donc méditer et apprécier la valeur de ce détail. Autre détail qui mérite de s'y arrêter, cette fontaine insolite et monumentale qui trône au milieu du panneau et du lac que j'ai évoqué dans la description. Peut-être s'agit-il là d'une fontaine de la connaissance. Elle domine la composition par sa taille et sa couleur rose insolite. Comme je l'ai dit précédemment, elle arbore des formes en arabesque et organique, mais il faut noter qu'en sa béance se cache une chouette. Or, la chouette est un animal à connotation très négative. Faut-il voir en cette chouette, au regard scrutateur, une représentation du mal en mode mineur? Ainsi, dans ce paysage paisible, le mal se cache déjà et nous regarde. Je laisse ce détail à votre appréciation, certaine que vous ne manquerez pas de satisfaire votre curiosité en affichant ce tableau sur votre smartphone. Troisième point de détail amusant, des lapins. À droite d'Ève, une multitude d'animaux, des petits animaux, et parmi eux, des lapins. Le lapin est un symbole de fertilité. Il est difficile de croire que le peintre les ait disposés là par hasard. Si Adam et Ève reçoivent la bénédiction du Seigneur et le fameux « multipliez-vous », le peintre s'est amusé à introduire des petits lapins symboliques dans le Jardin d'Éden comme pour mieux souligner ce commandement. Il y a d'autres détails et symboles qui peuvent être soulignés et questionnés dans ce panneau. Je vous laisse vous y intéresser par vous-même. Je vous y encourage d'ailleurs vivement avant de vous proposer une nouvelle pause musicale avec My Name de Lassa de Sela.
Gunshots exploding. I'm waiting for you in the gloom and the blazing. I'm waiting for you. I sing like a slave. I know I should know better. I've learned all my lessons right down to the letter. And still I go on like this year after year, waiting for miracles and shaking.
answer. Why don't you come save me? Show me how to use all these things that you gave me. Turn me inside out so my bones can save me. Turn me inside out. You've come this close, you can come even closer. The gunshots get louder and the world spins faster, and things just get further and further apart. The head from the hands and the hands from the heart. One thing that's true is the way that I love him. The earth down below and the sky up above him. And still I go on like this, day after day. Still I go on like this.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus avec Bande à part, émission d'histoire de l'art. Nous venons d'écouter ensemble My Name de Lassa de Sella et nous reprenons notre exploration du Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Les représentations d'Adam et Ève du Jardin d'Éden sont des thèmes communs dans l'histoire de la peinture. À toute époque, cet épisode de l'origine des hommes et du péché a été traité et nul doute qu'il inspire encore des artistes de nos jours, ce, malgré la sécularisation et déchristianisation de nos sociétés. Vous l'aurez compris, la production de Jérôme Bosch est un parti pris rare. Toutefois, si on s'intéresse à des représentations de cet épisode de la Genèse à la même époque, ou autour de cette époque, on peut s'émerveiller de la singularité de traitement de ce thème par le maître flamand. En effet, si l'on observe une production aux motifs similaires, comme celle de Lucas Cranach l'Ancien, et peinte vers 1530, soit 25 ans environ après le travail de Jérôme Bosch, on retrouve ce condensé de plusieurs épisodes en un seul tableau. Dans cette représentation de Cranach sont dépeintes plusieurs actions. D'un côté, la soumission d'Ève à la tentation, les noces d'Adam et Ève, leur péché de chair, et enfin, le moment où ils sont chassés du jardin de paradis. On pourrait croire que Cranach s'est inspiré de Bosch pour la représentation des noces. On y retrouve en effet Dieu bénissant le couple. Mais le génie de Bosch est sans doute, en confrontant les deux œuvres, d'avoir dépeint Dieu sous les traits du Christ, alors que Cranach privilégie les traits plus conventionnels d'un Dieu âgé et barbu. Autrement, si on s'intéresse à un autre triptyque, celui de l'agneau mystique par les frères Van Eyck, et peint dans le premier tiers du XVe, on est frappé par l'austérité et le dolorisme avec lesquels ils sont représentés. Les deux figures, maussades, encadrent un retable et sont situés sur les panneaux latéraux. Ils sont nus, comme toujours, mais semblent prostrés et déjà contaminés par la faute. Enfin, même sans être spécialiste, on peut s'étonner de l'absence de pommes dans la composition de Bosch. Cette pomme qui semble dominer la majorité des représentations du mythe fondateur. Ainsi, c'est encore heureux et béni que Jérôme Bosch souhaite nous présenter Adam et Ève. Ce moment de plénitude suspendue étant le prétexte à une représentation foisonnante, pleine d'astuces et de symboles, et donc riche et délicieuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes chers amis. J'en ai fini avec ce panneau d'Adam et Ève par Jérôme Bosch. Même s'il est certain, et je vous l'accorde, qu'il y aurait sans doute encore tant à dire. Peut-être même tout et son contraire. J'espère que vous avez pu vous figurer avec moi la singularité et la richesse de cette œuvre inédite qui nous vient du tout premier XVIe siècle. Je n'ai pas la prétention de tout en dire, mais j'espère vous avoir éclairé sur cette œuvre, en tout cas suffisamment, pour vous donner envie d'aller la regarder de votre côté. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et vous espère au rendez-vous pour notre prochaine émission qui, sans tout déflorer, devrait se rapporter de près ou de loin à Saint-Jean-le-Baptiste. Bon dimanche et bonne semaine à venir à chacun. C'était Bande à part. À bientôt.
En streaming ou en podcast, toutes nos émissions sur radioalliance+.fr.